Au nom de Dieu, salutations à tous les chers et adorables acteurs économiques. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous aurons un autre podcast éducatif sur le thème de la vente multiple grâce à la compréhension de l'esprit. Si vous parvenez à comprendre l'esprit humain, vous pourrez facilement convaincre les gens pour que ce que vous proposez se réalise. Comprendre l'esprit ne se fait pas en seule séance. Vous ne pouvez pas l'analyser entièrement dans un podcast éducatif d'une heure et demie ou dans une heure. Cependant, c'est faisable. L'idée clé, c'est que vous apprenez progressivement étape par étape. Il suffit de pratiquer un peu à chaque étape, de brûler de phosphore pour comprendre ce concept. Que signifie brûler du phosphore? C'est une expression très importante qui nécessite que vous y portiez attention. Je vais l'expliquer pour que vous compreniez mieux. Parfois, vous lisez un livre, un article, vous écoutez un fichier d'audio et vous passez à autre chose sans vraiment y prêter attention. Très souvent, lorsque j'enseigne des scénarios ou des esprits de vente à mes amis ou élèves, je leur donne des dialogues écrits à lire, mémoriser ou réciter tout en enregistrant leur voix. Il y a deux manières de faire cela, soit en brûlant du phosphore pour mémoriser, soit sans vraiment s'investir. La différence est énorme. Si vous voulez mémoriser quelque chose en le répétant ou en l'écoutant souvent, cela finit par s'ancrer dans votre subconscient. J'ai vu des élèves très paresseux mémoriser des chansons récentes en moins de 10 minutes, même s'ils n'ont pas un QI très élevé. Comment se passe-t-il? Je n'arrive pas à le comprendre, mais ils mémorisent. De même, des jeunes enfants de 5 ans en chantant des chansons et mémorisent des morceaux de musique. Comment se passe-t-il? Pourquoi ne peuvent-ils pas mémoriser leurs livres scolaires alors? C'est là que vous commencez à réfléchir et que votre esprit bouge sans comprendre. La raison principale est la répétition. Ils entendent le morceau ou la chanson plusieurs fois et cela devient automatique. Le point que je vous souligne est que si vous écoutez un sujet à plusieurs reprises, vous finirez par le mémoriser. Par exemple, si vous écoutez souvent la voix d'un locuteur particulier, vous constaterez que vous commencez à adopter son accent et sa manière de parler. Beaucoup de mes élèves me disent « Professeur, notre manière de parler commence à ressembler à la vôtre ». Ils disent cela parce qu'ils écoutent souvent mes fichiers audio dans leur voiture ou à la maison et ils finissent par adopter mon accent et mon style de discours. Donc, sachez que cela est naturel. Si vous vivez un an dans une ville, par exemple, je ne sais pas, à Isfahan en Iran, et que vous interagissez constamment avec les gens de cette ville, vous finirez par adopter leur accent. Si vous vivez dans des autres villes, il en sera de même. Ou que vous soyez à Paris, à je sais pas, New York ou à Tokyo, vous parlerez comme les locaux. Ainsi, d'autres personnes sont influencées. Ce n'est pas une question d'avoir un intellect très élevé pour parler comme quelqu'un. Il suffit de l'entendre souvent. Votre esprit apprend tout. Ne vous dites pas que vous êtes stupide ou incapable d'apprendre ces concepts. Je vous donne l'exemple des enfants de 5 ans qui les apprennent. L'esprit n'est pas fait pour ne pas apprendre. J'ai vu beaucoup de personnes analphabètes qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui lisent le Coran avec une grande aisance et parlent merveilleusement bien. Pourquoi? Parce qu'ils l'entendent souvent. Donc, pour mémoriser un sujet ou apprendre quelque chose, il suffit de l'écouter fréquemment. Inconsciemment, vous deviendrez complètement compétente dans ce domaine. Une fois que je comprends comment fonctionne l'esprit, je peux comprendre comment fonctionne l'esprit des autres, y compris de mes clients. En comprenant cela, je peux proposer des solutions, des suggestions et présenter des modèles pour les amener à choisir ce que j'ai en tête. C'est la technique de persuasion basée sur la connaissance de l'esprit. Peut-être que vous vous dites que le sujet devient intéressant et que vous voulez apprendre davantage sur ce concept. Inch'Allah, ou si Dieu veut, dans le jour à venir, nous parlerons plus en détail de l'esprit, mais aujourd'hui, je veux vous enseigner quelques techniques. Si vous les comprenez bien, elles multiplient vos ventes. Mon sujet se concentre principalement sur les affaires. Je veux vous parler de l'esprit pour que vous puissiez mieux réussir dans vos affaires. Il suffit d'écouter attentivement et de brûler du phosphore, c'est-à-dire d'écouter plusieurs fois pour mémoriser l'idée de manière efficace. Ne vous contentez pas de lire à haute voix sans y réfléchir. Certaines personnes récitent sans vraiment réfléchir et cela ne sert à rien. Vous devez réfléchir profondément pour bien comprendre. Concentrez-vous de manière à rester authentique quand vous parlez, pour que je puisse dire que ce sont vraiment vos mots et non pas quelque chose que vous lisez. C'est un point qui est très important pour moi et qui aura un impact considérable sur ta réussite. Le premier sujet dont je veux parler concerne l'effet de la fuite face à l'ambiguïté. L'esprit aime fuir chaque fois qu'il se trouve confronté à une situation ambiguë. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez mieux ce concept. Par exemple, lorsque tu entres dans un magasin pour acheter un produit, disons un lave-vaisselle ou une boîte de conserve de thon. Tu regardes la vitrine et tu vois plein de marques de thon. Par exemple, un thon, il s'appelle Toffee, c'est le nom de la marque. Une autre Tabiat ou une autre Oliva et encore une autre Picha. J'invente ce nom. Disons qu'il y a aussi une cinquième marque que j'appelle Gulab. Alors, la question est, laquelle ton esprit choisit-il? Tu choisiras sûrement l'une des quatre premières marques, mais certainement pas Picha ou Gulab, car ton esprit ne connaît pas ces mots et les trouve ambigus, donc il les évite. Cela montre comment fonctionne l'esprit. Lorsqu'il ne connaît pas quelque chose, il cherche à l'éviter. Supposons maintenant que tu sois à l'université au cinquième semestre et que tu dois choisir un professeur pour un cours de physique. Tu connais un professeur qui enseigne depuis plusieurs années et tout le monde connaît et que toi-même connais. Il a déjà ses habitudes et tu connais comment il note. Maintenant, il y a un autre professeur qui vient d'arriver pour son premier semestre et que tu ne connais pas du tout. Lequel choisis-tu? Celui que tu connais, évidemment. C'est la même chose au lycée. Tu préféreras être entouré des gens que tu connaissais. Tu as choisi des amis parmi ceux que tu connaissais déjà. Quand tu choisis une spécialité, en deuxième année, tu choisis souvent de rester avec ceux que tu connais. Pourquoi ne vas-tu pas directement te faire des amis avec quelqu'un de nouveau que tu ne connais pas? Parce que ton esprit fuit l'inconnu. Aujourd'hui, tu as appris l'effet de la fuite face à l'ambiguïté. L'esprit veut fuir l'inconnu. Alors, que devons-nous faire pour nos clients? Il faut savoir que les clients font des choix de la même manière. Il ne faut laisser aucune ambiguïté pour le client. Il faut lui fournir toutes les informations nécessaires pour pouvoir vendre plus efficacement. C'est le point que tu as appris aujourd'hui. Mais maintenant, passons au deuxième point. Aujourd'hui, je vais vous donner plein d'exemples pour que vous compreniez comment fonctionne l'esprit, comment fonctionne celui de vos clients et de vos employés. Quel est leur avis à votre sujet? T'aimes-t-il ou te détestes-t-il? Je veux que tu comprennes un peu mieux comment fonctionne leur esprit pour que tu puisses mieux les diriger et mieux faire du commerce. Le deuxième point, c'est l'effet de l'ancrage. Le deuxième point, c'est l'effet de l'ancrage. L'effet d'ancrage est très important dans la comparaison des valeurs lors de la prise de décision. Qu'est-ce que cela signifie? Laisse-moi vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Supposons que tu entres dans un magasin de chaussures. Tu vois une paire de chaussures à 995 000, par exemple, francs, et une autre avec 1 million 10 000 francs. Selon toi, laquelle les gens choisiront-ils le plus? La plupart des gens choisiront celle à 995 francs, même s'il n'y a que 15 000 francs de différence, une somme insignifiante. Pourquoi? Parce qu'ils ne se soucient pas de la vraie valeur des chaussures, mais ils comparent simplement le prix. C'est cela l'effet d'ancrage. On prend des décisions basées sur des comparaisons. Je vous ai aussi expliqué cette technique lors d'un cours à l'école de commerce en parlant des prix des sandwichs dans les fast-foods. Je vous ai appris comment fixer le prix pour augmenter vos ventes. Beaucoup se demandent combien de bénéfices ils doivent faire, à quel prix ils doivent vendre leurs produits. Au lieu de fixer un prix de 1 million, tu pourrais dire 995 000 ou 999 000 francs. Et tu verras que même avec une petite différence de 1 000 francs, les ventes augmenteront. Mais cela doit être comparé à d'autres situations pour que l'effet fonctionne. Si ton produit est unique, que tu le fixes à 999 000 ou 1 million francs, tu n'obtiendras peut-être pas le même résultat. Créer un effet nécessite une comparaison entre deux produits au plus. Donc, il faut avoir au moins deux produits, voire trois, pour que l'individu puisse les comparer. C'est la deuxième technique. Comprendre comment l'esprit prend des décisions pour faire un choix. Aujourd'hui, tu apprends des détails très précis et subtils dans ton entreprise. Le troisième point ou la troisième, troisième technique, c'est l'effet dit bricolage ou interaction avec le produit. Si ton produit permet aux gens de bricoler ou de la personnaliser, il devient très attrayant. Par exemple, certains modèles de chaussures sont fabriqués de manière que les gens puissent attacher les lacets selon leur goût. Les gens aiment cela. Pouvoir faire quelques modifications selon leurs préférences, comme changer les lacets ou l'apparence des chaussures. Cela rappelait aussi les os surpris, ces os en chocolat qui contenaient un petit jouet à assembler. Les enfants adorent ça, car ils peuvent jouer avec et construire quelque chose à partir des pièces détachées. Si le produit permet cette interaction créative, cela le rend plus attrayant. Tu dois donc aussi prendre en compte la créativité de tes clients. Pourquoi les téléphones portables sont-ils si attrayants? Parce qu'ils permettent à chacun de personnaliser son écran d'accueil, ses icônes, etc. contrairement aux anciens téléphones, par exemple Nokia, où tout était figé. Avec le nouveau smartphone, on peut modifier presque tout, ce qui est très attrayant pour les utilisateurs. Par conséquent, il est important de donner à tes clients la possibilité de laisser leur créativité s'exprimer dans l'utilisation de ton produit. Pour certains produits, tu pourrais te demander comment puis-je intégrer de la créativité. Beaucoup d'entreprises utilisent des sondages pour impliquer les avis des autres dans l'amélioration de leurs produits. Si nous avons le temps, nous parlerons plus tard de la manière de créer des sondages, des stratégies à suivre, des aspects psychologiques et des types de questions à poser, ouvert, fermé, etc. Un autre point important est l'effet de mimétisme social. Le cerveau prête beaucoup d'attention à ce que font les autres. En tant que vendeur, tu dois reconnaître l'importance de cet effet. Les gens aiment se sentir comme faisant partie de la majorité. Par exemple, avant une élection, les gens votent souvent pour le candidat qui a le plus de soutien. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être dans l'équipe de la majorité et ne pas se retrouver seuls dans un camp minoritaire. Cette même dynamique joue un rôle dans la vente. Beaucoup de clients ne savent pas quel produit choisir. Si tu leur dis que 90% de tes clients précédents ont choisi un produit particulier, cela rend leur décision plus facile car ils veulent faire partie de cette majorité. Ce mimétisme les rassure dans leur choix. Beaucoup de gens cherchent une décision rapide et ne veulent pas passer trop de temps à comparer les options. Ils se fient donc souvent aux choix des autres. Par conséquent, montrer la satisfaction de tes anciens clients est crucial pour attirer de nouveaux clients. Ils seront incités à acheter chez toi, car cela leur simplifie la prise de décision. Comme tu l'as peut-être vu, de nombreuses entreprises utilisent aussi des célébrités pour influencer les décisions d'achat. Ils utilisent des célébrités pour la publicité, car quand un acteur ou une star célèbre est associé à un produit, cela renforce l'idée qu'il y a quelque chose de spécial à ce sujet. Le public sense, si ces célébrités l'utilisent, alors moi aussi je devrais l'essayer. Même si ce n'est pas nécessairement correct, c'est ainsi que fonctionne l'esprit des gens. C'est pourquoi vous devez promouvoir votre marque en montrant qu'elle est populaire et que beaucoup de gens l'ont choisie et approuvée. C'est un point important que vous avez appris aujourd'hui. Un autre aspect qui augmente les ventes est une technique souvent utilisée. Donner de la confiance en soi. Beaucoup de gens manquent de confiance en eux et ne croient pas en leurs capacités. Si tu es aussi une personne de confiance, comme un mentor ou un formateur leur donne un coup de pouce en matière de confiance, cela peut révéler leur potentiel caché. Leur performance s'améliore considérablement. J'ai vu beaucoup de mes élèves réussir grâce à cette technique. Je leur ai dit, tu peux le faire en leur présentant des arguments logiques sur la raison pour laquelle ils peuvent réussir. Certains n'auraient jamais cru qu'ils pourraient réussir à vendre en gros, mais avec un peu de motivation, ils ont commencé à expédier des produits partout dans le pays. Vous pouvez appliquer cette méthode avec vos enfants ou vos employés et vous verrez les résultats. Cependant, il faut rester réaliste. Si un enfant de 10 ans ne peut pas soulever un poids de 100 kg, vous ne pouvez pas lui dire qu'il peut le faire. Commencez par quelque chose qu'il peut gérer, puis augmentez progressivement les défis. C'est pareil en affaires. Il faut avancer pas à pas. Dans l'éducation,
on ne enseigne pas tout d'un coup. Le premier jour d'école, on ne nous apprend pas tout l'alphabet en une seule fois. On commence par la lettre A, puis B, et cela prend un an pour apprendre tout l'alphabet. Il faut appliquer la même approche progressive avec vos élèves ou vos employés en leur donnant la confiance nécessaire pour réussir petit à petit. Un autre point très important est de ne pas détruire la confiance en soi des gens. Beaucoup de gens commettent cette erreur en rabaissant ou en humiliant quelqu'un. Cela tue complètement la confiance de la personne et elle peut finir par devenir comme un mort vivant sans ambition ni motivation. Il faut faire très attention à ne pas exagérer dans les compliments ou créer des attentes irréalistes. Par exemple, si quelqu'un ne peut sauter d'eau 10 cm, vous ne pouvez pas lui dire qu'il peut sauter à 1 mètre. Il se sentira moqué ou démotivé. Enfin, une technique de vente que je me souviens et que je souhaite partager avec vous est appelée l'aversion à la perte. C'est simple. La douleur de prendre quelque chose en deux fois plus intense que le plaisir de gagner la même chose. J'ai testé cela à de nombreuses reprises. Par exemple, si vous dites à quelqu'un qu'il pourrait perdre 10 millions de dollars, la douleur ressentie est bien plus forte que s'il avait la possibilité de gagner ces 10 millions sans y parvenir. Ce principe est très efficace dans la motivation et les ventes. Il est fascinant de constater à quel point l'esprit humain est prêt à éviter la perte immédiate tout en restant indifférent à des gains potentiels bien plus importants à leur terme. Par exemple, perdre 10 millions de dollars est très douloureux pour quelqu'un, mais cette même personne ne ressent pas la même douleur en réalisant qu'elle aurait pu gagner 300 millions, mais n'a pas fait l'effort de l'obtenir. C'est comme si le fait de perdre ce qu'elle possède déjà est beaucoup plus insupportable que de rater une opportunité de gagner bien plus. Cette aversion à la perte est une réalité psychologique largement observée. Les gens sont prêts à se battre pour ne pas perdre ce qu'ils ont, même s'ils ne font rien pour obtenir plus. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a un revenu de 30 millions de dollars par mois. Il est possible qu'il perde 10 millions en invitant ses amis à dîner et cela lui semble terriblement douloureux. Pourtant, il pourrait très bien mettre en place un plan pour gagner 300 millions par mois, mais il ne le fait pas, car cela ne lui cause pas autant de douleur de manquer cette opportunité. Ce phénomène est lié à la manière dont notre esprit fonctionne. Les gens ne croient pas toujours en leur capacité à gagner plus, surtout s'ils n'ont jamais vu ces sommes d'argent dans leur vie. Une personne qui n'a jamais touché un salaire de 300 millions par mois ne peut pas facilement imaginer cela. C'est pourquoi, même si on leur explique qu'ils peuvent réussir, ils ne le croient pas jusqu'à ce qu'ils en fassent expérience eux-mêmes. J'ai vu cela avec mes propres élèves. Une fois qu'ils ont commencé à toucher des revenus élevés, il leur était impossible de revenir à des revenus inférieurs. Quand quelqu'un commence à gagner 100 millions, il ne peut plus accepter un revenu de 10 millions, même s'ils étaient contents avec ce montant auparavant. Pour que les gens croient en leur potentiel, ils doivent d'abord voir les résultats concrets.
Tant que quelqu'un n'a pas personnellement vécu le succès, il est difficile de lui faire croire uniquement avec des mots. C'est là que réside toute la différence de l'aversion à la perte. L'esprit humain nous concentre sur ce qu'il peut perdre dans l'immédiat plutôt que sur les gains à long terme qu'il pourrait obtenir avec des efforts. Que faire alors pour surmonter cette aversion à la perte et cet attachement au statu quo? Il est essentiel de supprimer les émotions de décision financière et de se concentrer sur des objectifs à long terme. Les petites pertes ou échecs ne doivent pas décourager une personne à poursuivre ses ambitions. Beaucoup d'abandonnent après un petit échec parce qu'ils n'ont pas une vision claire à long terme. Ils veulent des résultats rapides et dès que cela ne fonctionne pas, ils se retirent. Les réseaux sociaux comme Instagram exacerbent ce problème en poussant les gens à prendre des décisions impulsives basées sur des émotions momentanées. À l'inverse, une réflexion sur le long terme est cruciale pour éviter cette mentalité de coup rapide. L'éducation continue, la lecture de livres, l'écoute des podcasts et le fait de passer du temps avec des personnes qui ont une vision long terme peuvent aider à sortir de cette mentalité impulsive. Enfin, un autre aspect important à comprendre est que beaucoup de gens préfèrent rester dans leur zone de confort, même s'ils savent que des opportunités meilleures existent. Par exemple, certains travailleurs refusent de quitter leur emploi de salaire même lorsqu'ils savent qu'ils pourraient gagner bien plus dans le commerce ou en devenant entrepreneur. Pourquoi? Parce que l'esprit humain préfère la stabilité et le changement fait peur. Pour croître et se développer, il faut être prêt à changer. Ceux qui refusent le changement stagnent. Imaginez un arbre qui, après 50 ans, mesure toujours 2 ou 3 mètres. S'il n'a pas changé, il n'a pas grandi. Il en va de même pour les gens. Sans changement, il n'y a pas de croissance. Ceux qui sont prêts à accepter le changement verront leur vie s'améliorer. Et alors que ceux qui s'accrochent au statu quo finiront par voir leur qualité de vie se détériorer, surtout dans un monde où tout évolue, des prix, des produits aux valeurs sociales. En conclusion, pour réussir dans la vie et les affaires, il est essentiel de surmonter l'aversion à la perte, d'adopter une vision à long terme et accepter le changement. C'est seulement ainsi que la véritable croissance et le succès peuvent être atteints. Tu es satisfait avec un revenu de 10 ou 20 millions, mais ensuite tu vois que le prix de fromage augmente soudainement, que le prix de l'avion augmente, que le prix du blé monte. Bref, tout augmente. Eh bien, toi qui étais satisfait avec 20 millions, tu disais oui, parce que les autres aussi ont vu le revenu augmenter, mais toi, tu n'as pas pu augmenter le tien. C'est là que tu commences à souffrir. C'est parti, devient difficile pour toi. Je dis que la plupart des gens sont comme ça, pas tous, mais la majorité. Ils veulent toujours maintenir le status quo. Beaucoup de gens préfèrent toujours acheter dans le même magasin, même si le magasin d'à côté ou le supermarché voisin a les mêmes produits. Ils disent qu'ils ne vont pas changer de magasin parce qu'ils ont toujours acheté ici jusqu'à présent. Cette mentalité guide leur prise de décision. Eh bien, maître, alors, je devrais toujours prendre cela en compte pour mes clients, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, on peut éviter ce problème. Je dis qu'il faut prendre des risques. Le risque et la folie sont deux choses différentes. Il faut essayer des choses nouvelles, tester, augmenter son niveau de connaissance. Comme je l'ai dit lors de la dernière session, beaucoup de gens dépensent pour expérimenter parce qu'ils craignent le changement et rester figés. Essaye tout. Nous, dans notre entreprise, avons testé toutes les formes de publicité, que ce soit dans notre pays ou à l'étranger. Nommons une, et je dirais, si je ne l'ai pas testé pour voir combien de clients ça attire. Journaux, télévision, radio, magazines, chaînes étrangères, satellites, tout type de publicité que tu veux. J'ai testé les messages textes, le courriel marketing, la publicité sur Internet, les affiches, les panneaux d'affichage, les filières, les livres, les magasins, tout ce que tu peux imaginer en termes de publicité. Nous avons tout testé et pas juste un test au hasard, mais avec analyse et avec un budget énorme que j'ai consacré pour obtenir cette expérience. Ils lisent le groupe à investir, ils te donnent ces informations gratuitement, profitant. Mais toi, tu as toujours peur. Je ne comprends pas cette peur. Qui en fait dû à un manque de confiance? Si tu avais eu confiance, tu aurais utilisé ces expériences et tu aurais osé te lancer. Si tu avais agi aujourd'hui, tu aurais obtenu des résultats beaucoup plus rapidement. Il y a des gens qui nous disent, cela fait 3 ans que je te connais. Je dis, mince alors, cela fait 3 ans que tu me connais et pourtant tu es toujours dans ton ancien métier. Tu continues à gagner de l'argent, n'est-ce pas? Oui, répond-il. Mais ils n'ont pas osé changer. Bon, alors que faire? Et puis, il y a ceux qui disent, je t'ai connu il y a 2 jours, j'ai tout de suite.